Comment les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk ont été formées? À quoi ressemble la vie civile dans ces territoires après la grande invasion de 2022? Que voit-on aujourd'hui à Mariupol et à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l'armée russe? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Paul Gogo, journaliste, auteur de l'ouvrage « Opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et l'Ukraine, vu et vécu depuis le Donbass ». Paul a beaucoup travaillé au Donbass occupé, il a passé de nombreuses années en Russie en tant que correspondant étranger. Bonjour à Paul. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On te connaît comme journaliste, un journaliste qui travaillait pour plusieurs médias français, notamment pour Ouest-France, aussi pour Libération. On s'est connu avec toi à Kiev dans les années 2015-2016. Toi, tu es auteur du livre « Opération spéciale du genre de guerre vu et vécu depuis le Donbass », le livre qui vient de sortir aux éditions de Rocher. On invite nos auditeurs de consulter ce livre, de l'acheter puis de le lire. Je dois te dire, Paul, que j'étais très émue par le début de ce livre, là où tu mentionnes justement le jour de l'invasion, le 24 février 2022, que tu avais tout de suite pensé sur tes amis à Kiev et aussi à Brovary, parce que nous étions à Brovary à ce moment-là, il y avait des frappes de missiles. Alors, ma question à toi serait facile et peut-être simple. Pourquoi, en arrivant en Ukraine, tu avais tout de suite choisi de couvrir, de raconter l'histoire de Donbass, cette région qui était à l'époque la région qui était occupée, bah, qui commençait à être occupée en fait par les Russes, même si ce n'était pas évident à ce moment-là. Pourquoi ce coin très problématique de l'Ukraine qui t'intéressait le plus?
C'est une bonne question, je me suis souvent posé cette question-là parce que moi en fait j'aurais aimé commencer mon métier avant, en 2014, je commençais à travailler comme journaliste. Et j'aurais aimé être là pour aller couvrir l'annexion de la Crimée. J'aurais aimé être là surtout pour couvrir l'ensemble de la révolution de la dignité, la révolution de Maïdan. Mais mes études ont fait que je n'ai été disponible, je n'ai été en capacité de travailler librement que dans cette période où les manifestations ont commencé dans le Donbass. Donc très rapidement, moi je ne connaissais pas cette région-là, et très rapidement j'ai eu envie d'aller voir ce qui s'y passait, découvrir une nouvelle région de l'Ukraine. Je connaissais un peu Kiev, mais c'était à peu près tout. Et donc je m'y suis rendu, et en fait les choses ont eu lieu devant moi, c'est-à-dire que je n'y suis pas allé pour couvrir la guerre, puisque la guerre n'avait pas encore lieu. Je voyais des manifestations, j'étais curieux en fait de savoir ce que les gens du Donbass réclamaient. J'avais vu quand même, j'avais passé 10 jours sur Maïdan en décembre 2013, et j'étais assez curieux de voir comment ça avait été vu depuis le Donbass, ce que les gens du Donbass avaient compris de Maïdan et comment ils voyaient tout ça. Donc c'est un peu par cette curiosité-là que je suis arrivé à Donetsk, et en fait quand je suis arrivé, il y avait d'ailleurs d'un côté des manifestations anti-Maïdan, on va dire, et de l'autre, il y avait des manifestations en faveur de Maïdan qui réunissaient aussi beaucoup de monde.
Oui, donc tu décris dans ton livre tout un chapitre cette dernière manifestation aussi pro-ukrainienne avec des couleurs jaune et blanc. On a des amis qui se souviennent encore de cette époque, les amis qui ont dû par la suite quitter Donetsk, qui était occupée. Tu décris aussi petit à petit comment la guerre s'installe dans la région qui était paisible. Donc je me rappelle cet épisode à côté de l'arrêt du bus, n'est-ce pas? Vous étiez quelques jeunes journalistes, encore indépendant, avec une photographe, toi avec cette photographe Olga, Et à notre étranger, petit jeune étranger, qui voilà, vous partir dans la direction de l'aéroport de Donetsk, et donc tout d'un coup il y a le feu, et puis il y a, vous voyez cette vieille dame, n'est-ce pas, qui a été tuée par cette frappe.
Oui, ça a été ma première expérience de la guerre. Cette femme, ça a été la première ou la seconde personne à décider de ce conflit. Certainement la seconde, parce que quelques minutes plus tôt, j'avais vu aussi le corps d'un autre homme de l'autre côté de la gare de Donetsk. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris que la guerre commençait et que la guerre, c'était horrible, pardon pour la naïveté, mais moi, je ne m'étais pas forcément figuré ce que c'était réellement. Alors, en étant né en Normandie, j'avais quand même une petite idée de ce que c'était la guerre, mais voir les choses réellement, évidemment, ça change tout. Et cette femme qui soudainement s'est retrouvée à terre avec une balle dans la tête... Ça a un peu résumé le reste de ce que j'ai vécu dans le Donbass, c'est-à-dire que cette femme est tombée à terre, elle est décédée instantanément, et autour, les gens continuaient à attendre leur bus, leur tramway. J'ai jamais vraiment compris, à vrai dire, pourquoi il n'y avait pas eu plus de réactions autour de nous. Je pense que tout le monde était plus ou moins sous le choc, et que tout le monde faisait un peu l'autruche. Je pense que la population n'avait pas envie de participer à la moindre guerre, et donc tout le monde tournait un peu le dos à ce qui se passait du côté de l'aéroport. Et on préférait ne pas voir ces horreurs-là, même si je pense que tout le monde était effrayé à l'idée que tout ça puisse tourner à la guerre.
Oui, il y a un autre épisode aussi très, très dramatique que tu décris et qui t'a marqué aussi, tu le racontes dans ton livre, qui t'a marqué l'épisode où les enfants, les adolescents qui jouaient au stade à côté de l'école et ont été frappés, et visiblement aussi par les frappes qui pouvaient venir du côté ukrainien, parce que justement il y avait du matériel militaire russe ou séparatiste, comme tu le dis, à côté. Et donc voir voilà, ces scènes tragiques, t'as beaucoup marqué en fait, mais t'en as pas laisser en fait cette idée de revenir à Donbass. Je me rappelle les années 2015-2016, à toute occasion, tu voulais y aller, et même si ça devenait de plus en plus difficile, et donc il y avait même des arrestations, vous étiez détenu, hein, donc quelquefois.
Oui, oui, mais en fait, j'ai un peu développé une obsession sur cette région, ça t'a pas échappé, et je sais pas d'ailleurs si tout le monde a kiff bien... compris pourquoi moi ou d'autres on était attirés par cette région et pourquoi on avait tant envie de la couvrir. Moi, j'ai été un peu élevé journalistiquement, on va dire, par la journaliste russe Anna Politkovskaya, qui, elle, tenait beaucoup à couvrir un conflit du début jusqu'à la fin et à continuer à aller parler aux gens, même quand la presse était moins intéressée, quand l'intérêt médiatique était moins important. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis instantanément dans cette optique de me dire que je voulais comprendre ce qui se passait et que je voulais continuer à couvrir ce qui se passait sur place jusqu'au bout, ce qui ne sera certainement pas le cas parce que je ne pense pas continuer à travailler côté russe très longtemps maintenant. C'est, voilà, comme on le sait, c'est très dur de travailler côté russe quand on est journaliste et je comprends que la guerre va durer encore très longtemps, donc je risque de ne pas pouvoir aller au bout de ce projet. Mais en tout cas, ça me tenait vraiment à cœur d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et effectivement, la mort de ces deux enfants, ça m'avait choqué parce que c'est quand même un éternel rappel qu'il y a des civils au milieu de tout ça et que même si comprendre ce que les civils pensent de cette situation, c'est très compliqué. En attendant, ils en sont les premières victimes de ce conflit. Et une autre observation qu'après, j'ai été amené à faire, et c'était souvent le cas d'ailleurs quand la ligne de front n'était pas encore vraiment créée, que c'était un peu... une espèce de Far West et qu'on savait pas trop qui contrôlait quelle ville, c'est que, ça paraît stupide de le dire, mais la propagande russe essaye souvent d'expliquer l'inverse, qu'en fait ce sont les mêmes personnes de chaque côté de la ligne de front et qu'en fait il n'y a pas d'un côté des gens du Donbass qui soudainement seraient ou bien manipulés ou bien seraient devenus nazis, hein, comme on dit dans la propagande russe, au point de vouloir aller tuer leurs amis qui sont de l'autre côté du front. Non, la réalité, c'est que tous ces gens, ils continuent à se parler, que tous ces gens, ils n'avaient pas envie que la région devienne en guerre, tourne à la guerre, et que, quelque part, tous ces gens, ils ont été victimes, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, de décrire, ils ont été victimes de la déstabilisation de la région qui a été organisée par la Russie.
Oui, parce qu'il s'agit de cette guerre d'information, de cette guerre hybride, comme on disait à cette époque-là, même si le concept, en fait, de la guerre hybride, c'est un concept à
débattre. C'était dur à qualifier, oui.
Oui, parce que à la fois, il y avait des combats réels avec des chars, avec artillerie, avec des grades, avec tout. Mais à la fois, bien sûr, la Russie avait préparé le terrain, en quelque sorte, avec cette, voilà, cette campagne d'information, avec cette malinformation aussi, cette propagande russe, etc. C'est vrai que plusieurs populations de Donbass ont été malmenées, en quelque sorte, et donc, voilà, étaient victimes, en quelque sorte, de cette situation-là. Je me rappelle que dans les années 15 et 16, justement, le moment où 14 aussi, où tu allais régulièrement à Donbass. De notre point de vue, c'était un peu étonnant parce que nous avions devant nous un beau pays, Ukraine, qui avait gagné dans cette révolte, cette révolution contre le gouvernement de Yanukovych. Yanukovych avait quitté le pays. On parlait beaucoup de réformes, on parlait beaucoup de démocratisation, on parlait beaucoup de l'avancement, même si il y avait cette plaie de Donbass, mais aussi Crimée qui était déjà volée. Donc, et voilà, c'était étonnant pour nous de voir que le jeune journaliste, toi, tu t'intéresses pas à ça, à cette histoire d'un pays en progression, mais tu t'intéresses à ce petit bout à l'Est qui est bien sûr souffrant, c'est vrai qu'il souffre beaucoup, mais que les gens, c'est pas l'avenir que dépend d'eux, c'est plutôt des gens qui étaient un peu prisonniers du passé.
Oui, mais c'est intéressant que tu dis ça, et puis moi ça m'intéresse de savoir que tu l'as vécu comme ça à l'époque et que d'autres ont dû le vivre comme ça aussi. En fait, je pense que dans mon esprit, j'ai quand même passé un peu de temps à Kiev à l'époque, et je pense que j'ai instantanément ressenti la force qui émanait de Maïdan. Et tu dois te rappeler les amis que j'avais à l'époque, les gens que je fréquentais à l'époque. Pour moi, j'ai compris instantanément que ces gens, c'était l'avenir de l'Ukraine. Et du coup, quelque part, j'étais un peu rassuré là-dessus en me disant, voilà, il y a quelque chose de solide à Kiev. Il y a des gens qui sont prêts à transformer leur pays, qui sont prêts à se battre pour créer une Ukraine du futur, en quelque sorte. Et le trou noir qui reste dans ma compréhension des choses, c'était le Donbass. Et je voulais essayer d'aller comprendre ce qui s'y passait, sachant que d'ailleurs, à Donetsk, notamment, j'ai rencontré des gens comme ceux que je connaissais à Kiev, qui en fait avaient tout autant envie que les gens de Kiev, alors c'était souvent des jeunes, de changer les choses et de profiter de Maïdan pour lancer un élan, se battre contre la corruption, assainir un peu la politique, assainir la démocratie. Donc je pense que ça a été ma motivation. Et j'étais évidemment assez fasciné de voir à quel point certaines personnes dans cette région, dans le Donbass, vivaient dans le passé et souhaitaient se battre pour continuer à vivre dans le passé. Et donc cette différence entre les deux m'intéressait beaucoup parce que pour moi, les gens qui pensaient de cette façon-là dans le Donbass sont de toute façon amenés à disparaître. Pour dire les choses clairement, on avait surtout affaire aux célèbres babouchki dans le Donbass, aux grands-mères qui, parfois avaient très mal vécu la chute de l'URSS, très souvent, et qui d'ailleurs en avaient gardé une vision assez fantasmée avec du recul de cette URSS, qui en plus était assez perméable à la propagande russe et donc considérait que Vladimir Poutine, que la Russie d'aujourd'hui, c'était une sorte d'URSS nouvelle génération, encore une fois avec tous les fantasmes qui allaient avec, et observer tout ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il y a un moment, pour moi le Donbass c'est vraiment ce moment où la désinformation fait des morts en fait tout simplement, c'est-à-dire que la désinformation radicalise tellement certaines personnes qu'elles vont se retrouver consciemment ou parfois inconsciemment à accepter, à soutenir une situation qui va devenir militaire, armée et qui va faire des morts. Et ça, ça a été, bon, c'est un intérêt personnel, mais à titre personnel, oui, c'est vrai que ça m'a intéressé de...
Oui, tout à fait. Et donc là, il intervient en ce moment très douloureux pour toi parce que tu t'es vu s'interdire en fait à Donbass, c'était en 2015-2016, n'est-ce pas ? Parce que tu utilisais, parce que voilà, donc pour une raison un peu bizarre, parce que tu utilisais le mot séparatiste dans ce que tu écrivais dans tes articles, alors que le terme était mal vu à la fois à Kiev, puisque à Kiev, voilà, on voulait dire que voilà, séparatiste, c'est peut-être pas le bon mot parce que il ne s'agit pas seulement des gens de Donbass qui, d'eux-mêmes, décident de se séparer, mais il s'agit bien des cerveaux qui ont été lavés par la propagande russe. Et donc, on voulait souligner, si tu veux, du côté ukrainien de Kiev, qu'il y avait ce rôle important russe et pas uniquement séparatiste. Et tu te retrouvais, bien paradoxalement, aussi interdit à Donbass, parce que de ce côté-là, il n'aimait pas le mot séparatiste non plus. Et donc, tu te retrouvais dans cette impossibilité de continuer ton travail à Donbass.
Oui, mais d'ailleurs, je ne sais pas comment on voit les choses en Ukraine, en tout cas à Kiev en ce moment, mais tu en parlais rapidement tout à l'heure. En fait, on a encore du mal un peu à qualifier tout ça. Moi, le mot séparatiste, il me semblait correspondre plutôt à la réalité. Au début du conflit, en 2014, les Ukrainiens avaient décidé d'utiliser le mot terroriste au tout début. Ce qui, moi, m'avait semblé être très violent parce qu'on rencontrait des civils toute la journée dans le Donbass qui disaient « Est-ce que j'ai une tête de terroriste ? Est-ce que je suis vraiment un terroriste ?» Donc, ça ne correspondait pas, à mon avis, à la réalité. Et d'ailleurs, les premières actions militaires de l'Ukraine, c'était une opération antiterroriste. Mais ensuite, il y a eu visiblement une réflexion en Ukraine qui a fait qu'on a un peu pris en compte certainement la réalité du conflit, qui n'était pas seulement une armée russe qui venait se battre dans le Donbass, mais qu'il y avait aussi des civils qui s'étaient rejoints à cette armée russe, et que donc le terme séparatiste convenait un peu mieux. Mais en même temps, séparatiste, à la limite, ça concerne ceux qui veulent se séparer de l'Ukraine. Mais comment on qualifie les Russes qui sont venus se battre là-bas ? Et c'est comme ce terme qui, je crois, n'est pas du tout apprécié des Ukrainiens, et que je n'utilise pas non plus de parler de guerre civile, parce que c'est pareil, ça ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas totalement des gens qui se sont levés contre le reste de la population pour faire sécession. Donc je trouve qu'on a encore du mal aujourd'hui à qualifier tout ça, et je pense qu'une des explications de pourquoi on a du mal à qualifier tout ça, c'est tout simplement parce qu'on a du mal à illustrer, et c'est ce que je voulais essayer de faire dans mon livre, l'ampleur de la présence russe dès 2014 et l'ampleur des actions que Moscou a réalisées, à quel point elle a influé sur la situation en 2014. Et je pense que si le monde entier avait une vision très claire de ce que la Russie, si on avait des faits clairs, et tout nous avait été expliqué, si le monde entier avait une vision très claire de ce que la Russie avait mené à l'époque dans le Donbass, on ne verrait pas les choses de la même façon, et on aurait peut-être moins de mal à qualifier les choses comme elles le sont.
Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et donc là, tout de suite après, en 2017, après être interdit à Donbass en tant que journaliste pour cette affaire d'emploi de mots séparatistes et autres raisons aussi, parce qu'il y avait aussi la fermeture, n'est-ce pas, de cette soi-disant république de Donetsk et de Lugansk, qu'elle voulait pas la présence de la presse. D'ailleurs, les journalistes ukrainiens étaient interdits bien avant la presse internationale, mais voilà, très tôt, après quelques temps, tu y venais quand même avec autres collègues aussi, pour donner ce récit pour le regard international, et tu te retrouvais à Kiev. Et donc, en 2017, tu pars à Moscou, en Russie, c'est-à-dire dans un endroit, dans un pays tout nouveau, même si tu avais une certaine connaissance de la Russie, tu avais visité la Russie comme écolier encore, je crois. Et donc, comment est-ce que tu découvres, toi, de l'autre côté, en quelque sorte, de ce conflit-là, à Moscou, en tant qu'étranger, en tant que correspondant étranger, tu en parles beaucoup dans ton livre, mais quelles leçons tu en retiens ?
Mais, déjà, je voudrais préciser que, effectivement, il y a eu l'excuse pour les séparatistes d'utiliser le mot séparatiste pour nous interdire du Donbass, mais en fait, ils ont créé un régime d'accréditation qui leur permettait de choisir qui pouvait venir et qui ne pouvait pas venir, qui, à mon avis, l'idée venait totalement de la Russie. C'est la Russie qui, à un moment donné, a décidé qu'elle ne voulait plus voir d'occidentaux, de journalistes occidentaux dans le Donbass. Ensuite, j'arrive en Russie avec... j'avais envie d'essayer de comprendre comment on voyait les choses côté russe, pourquoi la population avait l'air d'accepter tout ça, voire même de soutenir tout ce qui se passait en Ukraine. Et j'étais assez timide au début, je ne savais pas si on pouvait parler librement de l'annexion de la Crimée, si on pouvait parler librement de tout ce qui se passait dans le Donbass. Et ma première découverte, ça a certainement été de comprendre que les Russes, ils ne connaissaient pas vraiment le Donbass, en fait, que personne n'avait jamais mis un pied dans le Donbass. Alors la Crimée, évidemment, on connaissait très bien cette péninsule, et ce qui est assez troublant, se dit en passant, c'est que j'ai l'impression qu'au-delà de la zone touristique, les Russes n'ont pas vraiment une... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un intérêt qui consiste juste à dire on manque de plages en Russie, on manque de cités balnéaires en Russie, et la Crimée, ça nous arrangerait de l'avoir aussi sur notre territoire. Après, vous avez le joyau russe, Sébastopol, comme on l'entend souvent, donc qui attise un peu la partie armée et patriotique de la péninsule. Mais l'ensemble de la péninsule, c'est quand même vu comme un endroit où on installe sa datcha pour venir y passer les vacances. Ensuite, pour le reste, bon, j'ai découvert que parler de l'annexion de la Crimée, ça enchantait les Russes, c'est-à-dire qu'effectivement, la population avait un regard assez clair sur cette annexion, qu'en Russie, voilà, on peut vous sortir des explications politiques ou historiques pour vous expliquer que cette annexion, elle était légitime, et que la réaction des Occidentaux n'est pas vraiment entendue parce que on critique certaines choses, on n'en critique pas d'autres. Enfin, voilà, c'est une relativisation qu'on connaît très bien et qu'on connaît sur tous les sujets avec la Russie. Mais ce qui est rapidement devenu intéressant, c'est que les Russes n'avaient pas la même vision pour le Donbass, parce que pour le coup, le Donbass, ça leur sert à rien. Enfin, un Russe serait incapable de vous dire pourquoi la Russie a besoin du Donbass, autrement que par des argumentations un peu symbolique, de patriotisme ou de je ne sais quoi. Enfin, c'est avec des appels à l'histoire qui correspondent même pas à la réalité. Donc, il y a une. Je sais que les Ukrainiens font difficilement cette différence parce que, bah, logiquement, en Ukraine, le Donbass est autant en Ukraine que la Crimée. Et je le comprends totalement, mais en tout cas, eux, les Russes font cette différence dans leur esprit. Pour eux, la Crimée, c'est quelque chose qui est russe, c'est voilà, pas négociable. Le Donbass, par contre, c'est plus symbolique, c'est une façon maintenant, en plus d'ailleurs, de faire la guerre à l'Occident. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, je découvre en arrivant en Russie qu'on est en train d'utiliser ce bout de terre que j'ai connu en 2014 comme un moyen de pression quelque part face à l'Occident. En fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et on le voit, d'ailleurs, là, la Russie n'hésite pas à détruire les usines métallurgiques, les mines. Enfin, on aurait pu imaginer que la Russie essaie de conquérir ces villes en gardant les industries pour continuer, pour exploiter les richesses de la région. Évidemment, elle l'exploite quand c'est possible, mais c'est même pas la priorité. La priorité, elle est vraiment idéologique. Et donc, ça rend les choses encore plus terribles parce que vous avez des vrais gens qui vivent dans cette région, et qui sont quelque part victimes de tout un peuple qui a soudainement sorti de son chapeau une idéologie qui implique qu'on envahisse le voisin. Et voilà, c'est assez terrible à observer, je trouve.
Oui, tout à fait. Il y a cette différence entre Donbass et Crimée. Ça, on se rappelle aussi que le Crimée était annexé et a été occupé très rapidement, était rattaché, bah, illégalement bien sûr, mais à la Russie, tandis que on se souvient très bien que les habitants de Donetsk et de Lugansk, ils espéraient avoir un statut comme ça, en tout cas une partie de la population, et ceci jusqu'à très récemment. Et finalement, ils étaient aussi perdus parce que la Russie n'en voulait pas. C'est-à-dire que la Russie ne voulait pas rattacher Donbass, comme tu dis. Donc, ils voulaient juste que c'est un moyen de pression sur l'Occident, sur l'Ukraine. Voilà, les accords du Minsk qui étaient voilà, sans aucun espoir et qui ont quand même duré 8 ans. Et donc, tout ceci implique que ce type de non-droit, en fait, de l'État qui est inexistant, parce qu'ils avaient des passeports. Il y avait aussi la passeportisation, d'ailleurs, à Donetsk et Lugansk, n'est-ce pas, à partir de 2018, d'une manière massive. Mais ça, c'était comme si, voilà, on vous donne le passeport, mais vous n'êtes pas des vrais, vous n'êtes ni ukrainien ni russe, vous êtes qui, finalement. Et donc, voilà, c'est très cynique, en fait, vis-à-vis de cette population-là.
Exactement, c'est du cynisme. Et tu fais bien de rappeler cet état de fait que la presse avait du mal à observer, à rappeler durant toutes ces années, c'est que quasiment à chaque fois qu'il y avait un sommet international, généralement lié à l'Ukraine, mais même pas toujours, il y avait un regain de tension dans le Donbass, c'est-à-dire que la ligne de front était calme, et soudainement, ça se remettait à tirer de tous les côtés. Et quand on utilise l'expression de dire que le Donbass, c'était une façon de remuer le couteau dans la plaie pour Vladimir Poutine, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'était une plaie. Et à chaque fois que Vladimir Poutine voulait mettre la pression sur les Occidentaux, hop, il relançait des hostilités dans le Donbass. Et donc, c'est cynique, parce que vous utilisez une zone avec des civils dans cette zone, et parfois, durant ces regains de tension, il y avait des morts civils. Et pourquoi ? Pourquoi ces gens sont morts ? Tout simplement parce que Vladimir Poutine voulait mettre la pression aux Occidentaux qui se retrouvaient dans telle ou telle réunion internationale. Donc c'est effectivement d'un cynisme total, et je pense que le cynisme en Russie, c'est quelque chose qui guide la politique, la guerre qui guide tout aujourd'hui.
Tu as vécu longtemps à l'intérieur de la société russe, à partir de 2007 jusqu'à 2022, et au-delà, bien sûr, aussi. Mais voilà, est-ce que tu as vu, quelles étaient tes impressions de cette société russe, qui était sans doute très différente de la société ukrainienne que tu connaissais déjà à Kiev? Comment est-ce que tu te sentais en tant qu'étranger, en tant que journaliste à l'intérieur de cette société?
Tu sais que c'est une réflexion qui est permanente, et je me pose beaucoup de questions sur ma façon de raconter les Russes. Il y a quelque chose qui est clair, c'est que depuis le Covid, quand les Russes rencontrent un Français, un étranger, ils sont contents, c'est-à-dire qu'ils sont étonnés que des étrangers viennent encore les voir. Donc il y a une question de fierté qui entre en jeu, qui à mon avis vient de la propagande, parce que la propagande russe leur montre tous les mauvais côtés de l'Occident en permanence, et il leur montre un Occident qui serait russophobe, avec toujours cette chose en Russie de faire en sorte que le pouvoir et le peuple sont une même chose. Et donc quand vous critiquez Vladimir Poutine, vous êtes russophobe. De mon point de vue, c'est quand vous, si je disais quelque chose de radical ou anti-russe, population russe, là ce serait russophobe. Mais bref, le Kremlin veut faire un tout de tout ça. Et donc le fait que des étrangers viennent encore les voir, les Russes, ils étaient assez enchantés, ils le sont toujours, même si maintenant ils sont de plus en plus méfiants. C'est ce qu'on voit depuis quelques mois, là, depuis quelques semaines même, c'est que les Russes commencent à vraiment s'inquiéter quand ils rencontrent des étrangers, qu'il y a une tendance à la délation. Ça veut dire appeler le FSB après avoir rencontré, par exemple, un journaliste étranger. Et donc, bon, ça, c'est pour le contexte. Moi, ensuite, j'essaie de raconter cette population. La réalité, c'est que il n'y a pas de peuple méchant par nature. Donc l'objectif, c'est de comprendre un peu l'état d'esprit des Russes. Comment on en arrive là? Pourquoi des fois je rencontre des Russes qui me sortent des horreurs, mais voilà, qui m'expliquent qu'on va envoyer des bombes nucléaires sur Paris, que peut-être que l'armée russe sera un jour amenée à venir jusqu'à Paris pour venir nous libérer des étrangers, de l'homosexualité. Enfin voilà, ce sont des discours qu'on connaît bien. Et pourtant, malgré ces discours qui sont évidemment radicaux, derrière, je trouve toujours de l'humanité. J'arrive à détecter à quel moment ils ont été touchés par la propagande, de quelle façon ils le sont, et j'essaye de m'engouffrer un peu dans les failles de la propagande, ce qui n'est pas si difficile, parce que quand, par exemple, un Russe vous explique que l'existence de la Russie est menacée par ce qui se passe en ce moment, bon, voilà, c'est pas compliqué de leur expliquer que l'OTAN n'a jamais eu l'intention de venir s'installer à Rostov-sur-le-Don, c'est même pas l'OTAN qui a lancé cette guerre, que si les gens rejoignent l'OTAN maintenant, c'est justement parce qu'ils ont peur de l'attitude russe et qu'il y a une envie de se protéger en Europe de ce que la Russie est en train de produire. Et généralement, il n'y a pas vraiment d'argument derrière. Donc, c'est ce qui montre qu'en fait, on a juste aspiré un discours de propagande, qu'on l'a vaguement digéré et qu'on est juste prêt à le répéter parce que, en fait, je pense que les Russes n'ont pas d'explication de ce qui se passe. Et ça, on l'a beaucoup ressenti en 2022. Alors, c'est assez terrible pour les Ukrainiens parce que j'ai l'impression que pour les Russes, la guerre, c'est comme si la guerre avait commencé seulement en 2022. Mais dans les premiers jours de cette offensive de 2022, il y avait une incompréhension totale dans la population russe. Pourquoi on est en train de se battre contre, désolé de l'expression, je sais qu'on n'est pas en Ukraine, mais nos frères ukrainiens. C'est comme ça qu'on qualifie les choses en Ukraine, en Russie. Et donc une incompréhension totale de la population, effrayée, parce qu'elle a été plongée dans une certaine terreur. Donc soudainement, vous entrez en guerre, vous dites « est-ce que la guerre va arriver jusqu'à chez moi ? À quel point ça va me toucher ? À quel point ça va me concerner ?» Et du coup, on essaie de trouver une explication. Et quand vous n'avez pas d'explication sur ce qui se passe, eh bien, la propagande vous en sert une d'explication. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que même si parfois les Russes peuvent avoir accès à notre presse internationale, ou en tout cas notre vision du monde, ou même celle de l'Ukraine, en fait, eux vont mettre sur le même plan notre information occidentale, leur propagande, et entre deux propagandes, à leurs yeux, ils vont décider de choisir la propagande russe parce que c'est celle qui leur est favorable, c'est celle qui leur explique qu'ils sont des héros, que voilà, ils font une guerre, qu'ils sont du bon côté de l'histoire, qu'ils sont dans le bon camp, en quelque sorte. Donc, il y a ce processus, ce fonctionnement. Alors moi, j'ai toujours voulu raconter le côté humain des Russes parce que, en fait, ça sert à rien de juste expliquer qu'il y a des diables en face et ça aide pas à comprendre, je pense, le conflit. Et en même temps, les questions que je me pose en ce moment, c'est qu'objectivement, la population est en train de se radicaliser, je trouve, très rapidement. et que l'humanité, en fait, elle devient assez difficile à trouver avec le temps, je trouve. Et moi, j'ai l'impression d'avoir un peu atteint le bout de ma couverture de la Russie, parce que quand les gens que j'encontre n'ont plus que des discours radicaux à me tenir, je mets de côté ceux qui ne soutiennent pas la guerre et qui sont opposés à Poutine, mais la majorité, je pense, est plutôt du côté des discours radicaux. Quand les gens me tiennent des discours ultra radicaux et que derrière, il n'y a même plus de discussion possible, et qu'on n'a pas du tout la même vision de l'histoire, de tout ce qui s'est passé depuis 2014, mais même tout ce qui s'est passé depuis toujours dans l'histoire du monde, quand moi je leur parle souvent de Boutcha aux Russes, pour essayer de les secouer un peu, 9 fois sur 10, si c'est pas 10 fois sur 10, voilà, il y a une négation de ce qui s'est passé à Boutcha. C'était une action des Ukrainiens, c'était une action des Américains, c'était des faux cadavres. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, je sais que c'est très dur à entendre les Ukrainiens, mais comme ça l'est totalement pour moi aussi, quand je fais mes interviews. Et j'ai au moins la chance, on va dire, entre guillemets, d'être en position de pouvoir leur répondre et d'insister, de leur dire, mais non, mais moi, mes collègues, ils sont allés à Boutcha, ils ont tout vérifié, les informations, c'est pas les informations de Zelensky ou de Biden, c'est mes collègues qui ont vu les cadavres, qui sont allés sur place, ils ont enquêté, votre armée a fait ça à Boutcha. Et en fait, derrière, le déni continue, c'est impossible pour un Russe d'imaginer que son armée puisse faire des choses horribles. C'est juste... Il y a une question de fierté qui, visiblement, est très importante chez les Russes, qui m'avait peut-être un peu échappé au début, à quel point c'est fort, et qui fait qu'ils sont incapables de s'imaginer être du mauvais côté de l'histoire.
Oui, c'est affreux, en fait, ce que tu racontes, mais c'est très important à la fois de le dire comme ça, de le constater, de le noter, de le raconter dans ton livre. Tu as pu voir, depuis la Russie, des régions qui t'étaient chères, notamment Donbass, mais aussi la Crimée que tu as découvert, en fait, en passant par le côté russe, ce qui, bien sûr, pose pas mal de questions idéologiques et aussi des questions politiques, parce que, après, tu sais très bien que l'État ukrainien, après, il n'est pas très heureux quand il y a les journalistes qui entrent en Crimée depuis le côté russe, d'écouter ennemi, parce qu'on est bien en guerre. Qu'est-ce que tu as découvert à Donbass et en Crimée durant, vu depuis la Russie? À Donbass, tu étais juste le temps que la Russie commence cette grande invasion russe.
Oui, tu fais bien de préciser, je vais en dire un petit mot si tu veux bien, qu'effectivement, c'est assez logiquement illégal d'entrer en Crimée ou dans le Donbass par la Russie, parce que l'Ukraine n'a plus le contrôle de ses frontières, et donc ça équivaut à une entrée illégale sur ce territoire. J'aime bien le préciser parce que je l'assume totalement, c'est-à-dire que pour pouvoir travailler dans ces zones-là, c'était ma seule solution. L'Ukraine ne m'aurait pas laissé traverser de l'autre côté, et il y a un moment où je suis obligé, si je veux pouvoir aller donner la parole aux gens, d'entrer de cette façon-là. C'est ce qui fait que je ne vais pas tenter d'aller entrer en Ukraine aujourd'hui, faire un scandale si jamais on me refuse l'accès à l'Ukraine. Enfin, voilà, je comprends totalement l'attitude de l'Ukraine, la position de l'Ukraine, que je partage, mais comme journaliste, voilà, on est obligé parfois de trouver des astuces et des solutions pour pouvoir continuer à aller travailler, sachant que c'est limite, j'ai pas pu non plus y aller 1000 fois, donc bon, bah, ça reste quand même très compliqué. Ce que j'ai, ce qui m'a frappé à Donetsk en 2022, c'est que rien n'avait changé depuis 2014. C'est exactement la même ville, avec des immeubles totalement vidés de leurs habitants, dont les appartements ont été récupérés par des Russes, des soldats russes qui font venir leurs femmes régulièrement jusque dans le Donbass. Ça, j'ai trouvé ça fou. Moi, je pensais que les soldats avaient des permissions pour aller retrouver leurs femmes en Russie. En fait, il y a énormément de femmes russes qui viennent, mais parfois pas très loin de la ligne de front. Et donc, quand vous allez dans des hôtels ou vous voyez des appartements à louer dans ces régions-là, en fait, c'est généralement plein de soldats qui passent quelques heures ou quelques jours avec leurs femmes, pour ne parler que de leurs femmes, parce qu'il ne doit pas y avoir toujours que leurs femmes. Mais en tout cas, il y a cette ambiance assez étrange avec Donetsk, des bases militaires et des prisons qui sont parfois présentes en plein centre-ville. C'est, à mon avis, l'explication d'une partie des tirs ukrainiens qui touchent régulièrement le centre-ville de Donetsk, parce que je pense que les Ukrainiens sont très bien conscients et ont très bien localisé certaines bases qui sont assez connues depuis 2014. Donc ça, c'était important à observer, parce que Pour dire les choses comme je les ai vues, hein, Tetiana, à Donetsk, on utilise souvent les canons César pour tirer en plein centre-ville, les canons français César. Et donc, comme journaliste français, je suis un peu obligé de m'y intéresser. C'est quand même important pour moi de voir comment les armes sont utilisées, les armes de mon pays. Et effectivement, ça tombe souvent en plein centre-ville, ça touche souvent des civils. Sauf que lors d'un de mes derniers reportages, moi je connais bien Donetsk maintenant, et donc j'ai pu me rendre sur quelques-uns des lieux sur lesquels ces tirs avaient eu lieu, alors ou bien les César ou bien les HIMARS américains. Et en fait, dans 90% des cas, il y avait une base militaire à 50 mètres de l'endroit où la chose était tombée. Et les fois où c'était pas le cas, en fait, c'est parce que je ne connaissais pas bien le quartier, j'étais pas, voilà, je savais pas s'il y avait des cibles ou pas dans le quartier. J'étais pas en capacité de le vérifier. Donc voilà, mais la situation aujourd'hui à Donetsk est très étonnante parce que c'est beaucoup plus dur de vivre à Donetsk qu'à Mariupol aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens de Mariupol qui, eux, ont eu la chance d'avoir des appartements qui n'ont pas été touchés par les bombardements, ce qui n'est pas si courant parce que la ville a quand même été très touchée, qui aujourd'hui louent leurs appartements régulièrement aux gens de Donetsk, parce qu'à Mariupol, vous avez eau, électricité, wifi, alors qu'à Donetsk, pour le coup, on vit vraiment en guerre maintenant, ce qui n'a pas été le cas jusqu'en 2022-2023. Voilà, sachant qu'il y a aussi la ville de Lugansk, à Lugansk, on vit plus calmement parce que le front a été repoussé très loin de la ville. Jusqu'à la mort de Wagner, d'Evgeny Prigojine, c'était une ville qui était pleine de Wagner. C'était assez effarant à voir. Ils étaient partout en ville. Et c'était vraiment une ville militaire, quoi. C'était très étrange comme atmosphère. Parce que je rappelle aussi que ces villes séparatistes ne sont pas des démocraties. Ces régions séparatistes ne sont pas des démocraties depuis 2014. Et que l'ambiance est déjà très lourde. Il y a des gens arrêtés, torturés, emprisonnés parce qu'ils étaient soupçonnés, parfois juste soupçonnés, de soutenir l'Ukraine. Et que, en plus de tout ça, maintenant, vous avez des camions militaires toutes les 20 secondes qui traversent le centre-ville, des convois militaires. Vous entendez parfois un peu les bombardements au loin. Vous voyez les avions russes aussi qui arrivent de Russie, qui tirent leurs missiles et qui font demi-tour au-dessus de Lugansk. Donc c'est assez terrible et c'est pour moi des images d'un autre temps. Les gens de ces régions se sont habitués à cette situation. Mais évidemment, moi, je ne suis pas en capacité de m'habituer à ces situations-là. Et c'est d'un autre temps. Ça me rappelle un peu les guerres de Tchétchénie, d'une population qui apprend à vivre dans la guerre et qui en est victime, mais qui n'est pas toujours consciente d'à quel point elle est victime des choses.
Oui, mais c'est absolument intéressant ce que tu racontes. Oui, aujourd'hui, Donetsk se trouve à quelques kilomètres en fait, de la ligne du front, n'est-ce pas ? Donc c'est vrai que Mariupol, on a cette image, en tout cas en Occident, Mariupol, ville massacrée, ville détruite, etc. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de temps qu'il est à l'arrière, c'est-à-dire il y a quand même une certaine distance entre Mariupol et la ligne du front, la position ukrainienne, la position russe. Et donc du coup, oui, Mariupol, il est peut-être moins cible des attaques, même si on sait très bien parfois ça apparaît dans la presse que les Ukrainiens essaient de frapper des cibles militaires à l'intérieur de Mariupol. De temps en temps on a cette information là et toi d'ailleurs tu as fait ce voyage à Mariupol après que cette ville était détruite, et c'était des pages que j'ai lues avec beaucoup d'émotion, en pleurant presque, parce que c'est vrai que rien qu'au voir avec tes yeux, bien sûr avec tes descriptions, ce que tu vois dans cette ville-là, ça déchire les cœurs, je pense, voilà, à tous les Ukrainiens qui connaissaient et qui aimaient cette ville. Qu'est-ce que tu as vu à Mariupol ?
Moi, mon premier regard lors de mon retour à Mariupol, en plus, il s'est fait dans le cadre d'un voyage de presse avec l'armée russe. Donc c'est quand même très particulier, parce que là, pour le coup, ça veut dire assumer de ne pas être libre et d'être sous contrôle des soldats russes qui vont vous montrer que ce qu'ils ont envie de vous montrer. Et à Mariupol, il se trouve que ces soldats russes, alors je le précise tout de suite, je l'ai fait qu'une seule fois, j'ai fait qu'une seule fois un voyage avec l'armée russe dans le Donbass, parce que en fait, ça suffit. Enfin, je vous raconter une fois les coulisses d'un voyage de presse, vous n'avez pas besoin d'en faire deux fois. Et les autres fois où j'ai pu m'y rendre, j'étais en fait totalement libre, c'est-à-dire que j'étais interrogé par le FSB avant d'entrer sur le territoire, et après on me laissait circuler librement. Et à Mariupol, ils ont absolument voulu nous emmener dans ces fameux immeubles blancs que le Kremlin a fait reconstruire entre la ville et l'aéroport de Mariupol. Le problème, c'est que pour nous emmener là-bas, on a dû traverser la ville en bus. Et moi, ma découverte de Mariupol martyr, ça a été à travers les vitres d'un bus entouré de propagandistes russes et de soldats russes. Et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer parce que je me suis dit, mais je me retrouve dans un bus d'occupants avec des fous autour de moi. Les gens qui étaient là, c'était pas que des propagandistes russes d'ailleurs, il y avait des Européens qui avaient été payés, des blogueurs européens qui avaient été payés par le ministère des Affaires étrangères russe pour être dans ce bus, pour venir avec nous. Et je me retrouve entouré de fous à traverser une ville complètement rasée par les gens qui sont dans le bus avec moi, par les soldats qui sont dans le bus avec moi, et ça ne choque personne. Donc je me suis mis à pleurer, parce que je revoir Mariupol ravagé de cette façon-là, c'est assez terrible. En fait, le centre-ville de Mariupol est totalement, alors pas rasé, parce qu'il y a encore des immeubles qui tiennent debout, mais plus personne n'y vit, tout a été détruit. Il manque au moins une façade à chaque immeuble, si ce n'est deux ou trois parfois. Et vous avez d'autres quartiers un peu plus en périphérie ou dans lesquels voilà, il y a eu moins de bombardements, moins de tirs, et donc je crois qu'il y a des quartiers qui ont été touchés qu'à 30-40%, ce qui est déjà beaucoup. Et donc dans ces quartiers-là, il y a un peu plus de vie, mais quelle vie ? Enfin, c'est, vous avez des gens qui vendent la viande dans le coffre de leur voiture, vous avez des gens qui sont comme dans les années 90, des gens qui sont assis par terre à vendre les derniers bibelots qu'ils avaient sur leur armoire, qu'ils ont pu récupérer dans leur appartement qui parfois a été détruit. Vous avez les gens qui font la queue auprès de certains services pour essayer d'obtenir de l'argent, de leur retraite. Et puis surtout, oui, c'est cette ambiance de mort, c'est-à-dire que j'ai connu Mariupol vivante. Pour l'anecdote, quand en 2014-2015, on travaillait à Donetsk avec mes camarades freelance, on prenait parfois le bus pour aller à Mariupol, donc sous contrôle de l'Ukraine à l'époque, pour se détendre un peu. C'était pas très relaxant, Donetsk, et côté ukrainien, il y avait une sorte de soulagement, et puis c'était l'occasion d'aller à la mer un peu, et donc j'ai connu Mariupol, belle, avec... enfin, belle, tout est relatif, parce que c'était quand même une ville entourée d'usines métallurgiques, mais avec une population, en tout cas, qui était engagée pour sa ville et qui avait envie de la rendre belle. Et une vie dans cette ville, avec des parcs, moi j'ai souvenir de parcs ensoleillés, avec des enfants... Enfin, et puis surtout ces plages pleines, des pareils, les enfants, les restaurants. Enfin, il y a eu une espèce de dissonance cognitive pour moi quand je suis revenu dans cette ville et qu'elle avait été totalement transformée, comme si on pouvait tuer une ville comme on tue un humain, en fait. Et ça a été très dur pour moi à voir et à accepter. Et le problème de ce retour que j'ai pu faire avec les Russes, c'est que j'étais pas libre, donc eux ils m'ont emmené dans leurs immeubles blancs, et puis après on est reparti, on n'a pas pu aller en ville. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, maintenant objectif, revenir librement à Mariupol, je veux aller parler aux gens, je veux passer du temps avec ses habitants. Voilà, ce que j'ai été amené à faire un peu plus tard, il y a à peu près un an, et ce qui a été... assez terrible pour moi aussi, parce que pour le coup, Mariupol, c'est pas Donetsk ou Lugansk, ça fait pas 8 ans à l'époque ou 10 ans maintenant que c'est russifié. Pour trouver des gens qui attendent le retour de l'Ukraine à Mariupol, c'est pas dur en fait, il y en a beaucoup. Et du coup, c'est la première fois que j'ai eu des vrais témoignages de gens qui m'expliquent qu'ils vivent sous occupation, qu'ils ont super peur de quand l'Ukraine reviendra, parce que pour eux, l'Ukraine reviendra, il sera obligé de faire la guerre, parce que les Russes. Voudront pas lâcher leur position, mais même si ça doit repasser par la guerre, beaucoup de gens ont envie que l'Ukraine revienne. Et évidemment, tout le monde a peur des services de renseignement russes, du FSB, donc tout le monde se tait, et encore, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des partisans, il y a des gens qui tentent de faire des attentats, il y a des assassinats régulièrement dans ces zones-là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui essayent de faire des choses et qui sont très discrets, et je pense que si un jour l'Ukraine... retrouve le territoire de Mariupol. Je pense qu'on va voir plein de gens apparaître, pas seulement à Mariupol d'ailleurs, même peut-être jusqu'à Donetsk et Lugansk, mais qui vont ressortir la tête et dire « Voilà, moi, pendant tout ce temps-là, j'ai fait tout ça. J'attendais le retour de l'Ukraine et j'y ai contribué. » quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que c'est dur pour un journaliste d'illustrer tout ça, parce que par définition, les gens qui soutiennent l'Ukraine, ils se cachent aujourd'hui.
Oui, et on n'a aucun doute que ça sera comme ça, parce que quand on arrive aujourd'hui à Kherson, on vient de rentrer de Kherson, on a l'habitude d'y aller. Et donc, c'est vrai que dans les villes occupées, il y a toujours des gens qui, voilà, qui sont dans la résistance, qui est invisible, mais qui réapparaît, justement, comme tu dis, après la libération, ils vont raconter plein d'histoires douloureuses, tragiques, héroïques aussi, de ce qu'ils font. Et ma dernière question à toi, Paul, tu as pu voir une chose que jamais aucun Ukrainien n'a vu, aucun presque occidental n'a vu, et c'est une chose capitale dans cette guerre, c'est la centrale nucléaire de Zaporijia qui se trouve dans la ville Energodar. Tu l'as visitée dans le cadre du voyage de presse, mais donc tu as vu de tes propres yeux cette centrale occupée, donc nucléaire, occupée par les Russes, et donc qui constitue bien évidemment le danger pour tout le monde, pour l'Ukraine tout d'abord, mais aussi, on peut imaginer, pour l'Europe, parce que c'est voilà, comme si elle détenait en otage une centrale. Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as pu constater en te rendant sur les lieux?
Oui, bah, alors une autre précision, je tiens à préciser que je suis totalement conscient que faire ce genre de voyage avec l'armée russe, ça pose beaucoup de questions déontologiques et je me suis posé ces questions. J'ai d'ailleurs été le dernier des correspondants à le faire parce que j'ai longtemps hésité, j'étais pas super enchanté par l'idée. Puis je me suis dit en même temps, ce sont des zones dans lesquelles, auxquelles je n'aurais jamais accès si je n'y vais pas avec les Russes parce que. Autant Donetsk et Lugansk sont, voilà, on nous donne un accès plus ou moins libre à ces régions-là. On n'a pas le droit de s'approcher du front, mais en tout cas, on peut y aller. Autant Kherson et Zaporijia, moi, j'ai toujours interdiction formelle d'y aller. J'ai tenté, hein, j'ai fait des demandes, je n'ai pas le droit d'y aller. Donc, c'était ma seule occasion de pouvoir y aller. Il n'était pas prévu lors de ce voyage de presse qu'on aille dans cette centrale. Ce qui était prévu, et on l'a fait aussi, ça a été d'aller à Berdiansk, et j'en touche juste un mot, parce que quand les soldats nous ont laissé libre 20-30 minutes dans le centre-ville de Berdiansk, donc c'est pas très loin de Mariupol, Berdiansk, toujours au bord de la mer d'Azov, et en fait, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était un couple de retraités qui étaient assis sur leur banc, et qui m'ont dit, et au début, je savais pas quel ton il fallait que je comprenne, mais qui m'ont dit quelque chose du style, vous faites attention, c'est un conseil, faites attention, parce que les gens avec qui vous êtes venus, on les apprécie pas ici, et il s'est déjà passé des choses. Sous-entendu, vous êtes venus avec les occupants, vous faites peut-être partie des occupants, et ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Donc, je raconte juste rapidement cette anecdote, parce que c'est-à-dire que dans le cadre d'un voyage de presse, j'ai eu à peu près 20 minutes de liberté, durant lesquelles, instantanément, j'ai vu la réalité de ce qu'est la situation dans ces zones-là. Ensuite, ça a été une surprise. C'était pas prévu que les Russes nous emmènent dans la centrale de Zaporijia. Ils nous ont fait cette surprise tout simplement parce qu'ils ont organisé une provocation, en fait, contre les observateurs de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, atomique, AIEA. Et que, en fait, c'était le jour, si vous vous en rappelez, durant lequel le responsable de cette organisation a eu accès à Zaporijia. Lui, il est arrivé depuis Zaporijia, sous contrôle de l'Ukraine. Et en fait, nous, on ne le savait pas parce qu'on avait été coupé des réseaux pendant plusieurs heures, voire 24 heures. Et donc, on arrive sur place. Lui arrive sur place avec sa délégation. Et en gros, on nous avait dit. Jetez-vous sur lui pour le pousser à dire que les Ukrainiens bombardent la centrale. Moi, j'étais avec un autre collègue français, on était, je pense, à peu près les seuls à pas être, avoir un objectif, à ne pas avoir un objectif de propagande dans tout ça. On a vu tout le monde partir en courant sur lui, nous, on est restés derrière en se disant, mais tous ces gens sont fous. La délégation s'en est sortie sans problème, puisqu'ils ont refusé d'adresser la parole aux journalistes, aux propagandistes russes. Mais en tout cas, cette journée a été très troublante pour moi parce que c'est très étrange d'entrer dans une centrale nucléaire, presque les mains dans les poches, avec des gens armés, cagoulés, qui vous font passer les portiques sans trop vous poser de questions parce qu'ils savaient déjà qui on était, et qui après vous promènent au pied des réacteurs avec des soldats sur le toit des réacteurs. Alors ils avaient enlevé les blindés parce que je pense qu'il y avait plus de blindés autour de ces réacteurs, mais pour le bien de la visite, il y avait presque plus de blindés à proximité des réacteurs. Il y avait des camps qui avaient été installés un peu partout, donc il y a des soldats russes, j'imagine que c'est encore le cas, qui dorment sous des tentes au cœur de la centrale et qui ont installé leur petit camp militaire. Voilà, avec en fond des tirs d'artillerie. Donc il y a un côté très troublant aussi d'être au milieu d'une centrale nucléaire avec des tirs d'artillerie un peu partout autour. Et cette séquence que tout le monde a vue à l'époque où le responsable russe de Rosatom, qui a organisé la visite de la centrale, tente d'expliquer au responsable de l'AIEA qu'un des mortiers qui est tombé à vraiment 150 mètres d'un des réacteurs venait du côté ukrainien, alors que le mortier en question est planté dans la direction d'une position russe, comme s'il venait d'une position russe. Et donc, la délégation de l'AIEA, on avait beaucoup rigolé avec mon collègue parce qu'ils avaient prévu le coup, ils s'attendaient à des provocations. Donc, au moment même où le russe a commencé à expliquer que le mortier venait du côté ukrainien, il y a un des conseillers de Raphaël Grossi, le responsable de cette organisation, qui a sorti une boussole. Et je ne sais pas, il l'avait sous la main, je pense qu'il était prêt à répondre à cette provocation, ou en tout cas à cette histoire. Il a sorti une boussole et ils ont dit directement, là, je suis désolé, mais ce côté-là, c'est les Russes, c'est pas les Ukrainiens. Voilà, donc on a assisté à cette visite assez étonnante avec son genre de visite où vous ne savez pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Plus tôt dans la journée, ils nous ont expliqué que la ville Energodar avait été attaquée par les Ukrainiens. Et donc, on nous a enfermés dans une cave pendant une heure et demie en nous disant, vous entendez, on se fait attaquer alors qu'on n'a rien entendu pendant une heure et demie. Et que pendant tout ce temps-là, les soldats qui nous accompagnaient fumaient leurs cigarettes dehors. Donc je pense que ça a été totalement inventé, cette attaque. Et pourtant, la presse russe a repris d'ailleurs l'information toute la journée à l'époque d'expliquer que l'armée ukrainienne avait tenté de traverser le fleuve pour attaquer la centrale, et puis ils avaient bombardé, mais ils avaient été repoussés. Voilà, des communiqués que les Ukrainiens connaissent très bien, je pense. Et donc voilà, comment c'était un peu terminé notre journée avec une centrale vide. Ça m'avait marqué aussi que le parking des employés de la centrale était complètement vide. Il y avait genre 3 voitures. Et on était évidemment frustrés, même si on ne s'attendait pas à autre chose, de ne pas pouvoir rencontrer des employés. Parce qu'il faut se rappeler qu'à cette période-là, les gens qui faisaient survivre la centrale, c'était des Ukrainiens qui, en gros, étaient pris en otage par les Russes. Et donc, il fallait s'imaginer quand même que dans cet endroit qu'on visitait, il y avait des gens qui n'étaient pas libres de leur mouvement. Il y avait des gens qui certainement ne soutenaient pas la Russie, mais qui étaient obligés de rester là à travailler, entourés d'hommes armés, qui en plus, tous les 3 jours, menaçaient de faire exploser la centrale dans la presse, tout en accusant l'Ukraine, bien sûr. Mais voilà, donc c'était une expérience très, très étonnante.
Très étonnante, et c'est très important ton récit, ton regard, et voilà la possibilité de raconter cette histoire. Nous, on constate les situations de l'autre côté. On vient souvent de la ville de Nikopol, à 6 km de cette centrale-là. Et là, il y a sans aucune mise en scène, on peut voir malheureusement des obus qui tombent sur la ville, et les drones aussi, récemment, beaucoup de drones qui proviennent de l'autre côté. On peut imaginer les difficultés pour l'armée ukrainienne que de libérer ces centrales nucléaires qui représentent un danger pour donc, cette telle opération militaire. Et donc, on peut imaginer tout ce travail qui est encore à faire. Merci Paul pour cet entretien, merci pour ton travail. Tu as pris des risques aussi, certains sacrifices, parce que tu es maintenant un peu coupé de l'Ukraine pour pouvoir raconter ce que tu racontes. Et donc c'est un travail nécessaire pour que le récit de Donbass occupé, le récit de cette partie de l'Ukraine occupée, souffrante aujourd'hui sous cette occupation-là, qu'il soit entendu en France et sans doute, j'espère, au-delà. Merci beaucoup.
C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Paul Gogo, journaliste, auteur de l'ouvrage Opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.